coup de projecteur encore une fois sur les reflets du cinéma ibérique et latino-américain à Villeurbanne, et en particulier sur un film qui était projeté ce samedi, Curupira, bête des bois, c'est son titre. Il est réalisé par Félix Blum, et à l'issue de la projection, j'ai pu rencontrer le réalisateur.
Diz que ela faz a gente se perder no mato, né?
É invisível, só aparece, dizem que só aparece quando quer. Mas a gente sente aquele animal. A gente sente. Eu já senti.
Donc Félix Blum, bonjour.
Bonjour.
Vous présentez ce matin au Zola Curupira, bête des bois. Alors on vous connaît, nous, un peu à Transistor pour vos travaux sur le son. Vous avez une formation de preneur de son, d'ingénieur du son. Vous avez bien sûr déjà travaillé pour le cinéma, mais comment on en vient à la vidéo dans un travail personnel sur le son ?
Ben en fait, c'est un peu, voilà, c'est fait en faisant. Donc moi, j'ai voilà, principalement une carrière d'ingénieur du son pour des projets d'autres personnes, donc soit plutôt documentaire au départ, en tout cas plutôt prise de son documentaire. Et puis petit à petit, c'est aussi un peu de fiction, aussi de l'art vidéo, de la radio, mais toujours en travaillant comme ingénieur du son. Enfin, en tout cas pour des projets qui ne sont pas les miens. Et puis petit à petit, j'ai commencé des projets, des projets à moi. Des projets personnels, d'abord en travaillant avec ces matières-là que j'avais enregistrées pour d'autres, et puis petit à petit en faisant mes projets à moi. Et pour ce projet-là, ben, en fait, ça s'est fait donc en faisant, comme je disais, puisque je suis allé dans la forêt amazonienne pour enregistrer des sons, voilà, sans autres objectifs, on va dire, et petit à petit, j'ai enregistré aussi les récits des gens, et c'est comme ça que l'image est, en fait, est arrivée, c'est la nécessité de sous-titrer ces récits, et du coup pour que ça soit compréhensible dans d'autres endroits que le Brésil, puisque c'est la langue portugaise du Brésil, du nord du Brésil, qu'on entend dans la Curupira. Et donc le fait de mettre des sous-titres, ça implique donc du coup une image, et puis ensuite j'ai comblé les moments noirs entre les sous-titres avec des images filmées, et c'est comme ça que ça a devenu, c'est devenu un objet plus proche d'un film que d'une création sonore, mais je crois que ça reste encore entre les deux, quoi.
Alors du coup, dans ce film, on voit alterner des séquences où des personnages ou des gens munis d'un casque écoutent quelque chose, des séquences où sur une image noire, donc on a des témoignages, des histoires qui sont racontées, et puis le son de la nature qui est omniprésent sur ces deux parties du film, enfin sur ces deux éléments qui alternent. Comment vous avez travaillé pour ce film ?
Alors, la forme s'est trouvée vraiment à la fin, hein, cette forme-là, cette alternance, elle s'est un peu imposée d'elle-même, quoi. Mais disons qu'en fait, il y a ces trois matières donc, que tu as citées, il y a la nature, la forêt, il y a les récits, les témoignages des habitants de cette forêt, et puis il y a ces habitants-là, en fait, qu'on voit à l'image en train d'écouter les sons. Et ça s'est fait aussi en plusieurs parties. En fait, donc, quand je suis allé dans ce petit village, Tawari, mon idée c'était de me retrouver un peu loin des grandes villes de la forêt amazonienne. Donc on est à plus ou moins 600 km de Manaus, à l'ouest. Et là j'ai cherché en fait, un petit village dans lequel je pourrais aller. Et il se trouve que ce petit village en question, Tawari, ils avaient envie d'accueillir des touristes. Et donc voilà, j'étais le premier touriste à arriver là-bas et le premier touriste à être accueilli. Et donc ma présentation comme touriste, c'était évidemment avec un micro. Donc on est allé en fait enregistrer beaucoup dans la forêt. Alors moi j'enregistrais, mais par contre on écoutait en fait tout le monde écoutait, puisqu'il fallait rester voilà parfois 2-3 heures au même endroit pour attendre qu'il y ait des sons qui arrivent ou pas. Et donc ça se faisait avec différentes personnes du village, un petit village où il y a une vingtaine de familles, donc c'est assez petit. Et du coup, petit à petit, j'ai commencé aussi à poser des questions et à enregistrer les récits. Donc pas faire uniquement les sons de la nature, les sons de la forêt, mais aussi faire les sons de ses habitants. Et c'est comme ça qu'il y a eu plusieurs récits dans lesquels il y a eu cette histoire de cette créature qui s'appelle la Kurupira et qui est devenue un peu la ligne narratrice du film. Et vers la fin du séjour, j'ai commencé aussi à filmer ces gens qui sont en train d'écouter, puisque en fait, quand on partait écouter dans la forêt, ben souvent je leur passais mon casque ou j'avais un casque en plus. Et donc on se retrouvait à écouter ensemble. Et en fait, le film, c'est aussi cette idée-là, c'est d'inviter aussi le spectateur à écouter. Donc c'est écouter ensemble avec les habitants, écouter leurs sons de la nature, les sons de cette créature. Et c'est comme ça que cette forme a pris cette forme-là. Pendant le montage, j'ai commencé par monter le son, monter les récits. Et ensuite, j'ai mis les sous-titres. Et ensuite, dans les espaces noirs, j'ai mis les images. Et puis, finalement, au départ, je pensais que c'était plutôt un travail sonore. Et puis après, quand en le montrant, j'ai mis que c'est plutôt un film. Et puis voilà, ça reste un peu cet objet hybride. Mais c'est vraiment en faisant que la forme s'est un peu imposée d'une certaine manière.
Alors un objet qui est aussi hybride par sa durée, 35 minutes, c'est assez court pour un film. Quelque part, c'est quand même assez long pour cette évocation de cette bête des bois. Mais justement, c'est une invitation à prendre le temps, d'écouter. Et vous essayez, j'imagine, de montrer aussi comme le son suscite les imaginaires à travers ce film et cette bête qu'on ne voit pas et qu'on n'est même pas sûr d'entendre.
Ben oui, bien sûr, je pense que c'est la grande force du son, c'est de pouvoir ne pas nous montrer. Donc ce qu'on ne montre pas, on peut l'imaginer. Et donc en écoutant toutes ces personnes qui décrivent cette créature, chacun a une image différente de cette créature. Et surtout, on ne la voit pas. Et même dans ce que je montre, dans ce qu'on voit à l'image, je crois que justement le gros problème de l'image, c'est qu'elle montre en général. Donc là, c'est plutôt laisser le hors-champ nous permettre d'imaginer cette forêt. Donc on voit les gens écouter cette forêt, on voit les portraits des habitants, mais on ne voit pas la forêt en elle-même et on l'imagine. Et cela dit, c'est quelque chose qui se passe aussi dans la forêt, c'est que dans la forêt amazonienne, en tout cas, on entend beaucoup, mais on ne voit pas beaucoup. Parce qu'il y a toujours beaucoup de sons, beaucoup d'animaux, beaucoup de choses qui se passent, mais qui sont toujours cachées entre les arbres, qu'on a du mal un petit peu à discerner ou à voir. Et donc c'est un peu cette proposition aussi de ce film où de laisser écouter mais sans montrer. Et pour la durée, c'est vrai que 35 minutes, ça c'est un peu c'est un peu cette durée. Au départ, la première version de montage était un peu plus longue, et puis j'ai fait 2-3 visions test et les gens trouvaient ça un peu trop long donc du coup j'ai raccourci un peu. Aujourd'hui, après la projection, les gens ont dit que c'était trop court. Mais donc c'est toujours dur de trouver la bonne durée. Et puis c'est vrai que dans une salle, on pourrait l'avoir encore plus long parce qu'on est vraiment, avec le son aussi, il se rend et tout ça, on est vraiment immergé. Peut-être un peu moins quand on le regarde, si on le regarde sur un petit écran ou si on regarde sur son ordinateur, quoi. Donc c'est dur de trouver la bonne durée. Puis comme j'ai fait un peu ce film tout seul, donc c'est bien parce que j'avais aucune contrainte de temps, j'avais pas besoin d'être dans une case ou dans une autre. J'avais même pas la nécessité de faire quelque chose. Je pouvais aussi très bien dire que je faisais rien. Donc c'est l'avantage d'être libre, de faire les choses tout seul, mais c'est aussi de faire tout seul, ça prend du temps et parfois peut-être on fait pas les bons choix non plus.
Le film est construit un petit peu comme une polyphonie de voix et de visages, du coup aussi. La place que vous accordez aux voix est souvent celle un peu d'une polyphonie. Je repense aux Gritos de Mexico, où on avait aussi ces voix qui finissaient constituer un cœur. Et on ressent face à aussi ces visages qui écoutent et donc ces voix qui racontent une espèce d'humanité commune qui se détache sur ce fond de nature. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez voulu parler aussi, ces rapports et peut-être cette frontière entre l'humain, le naturel et donc le surnaturel qui vient éclairer tout ça?
Oui, alors pour les voix, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis le début de mon travail personnel. C'est toujours la voix. Je trouve que la voix raconte beaucoup sur la personne. Elle raconte beaucoup plus que ce que les mots, je trouve, en général. Et donc, c'est vrai que jusqu'à maintenant, je m'étais plutôt concentré sur des voix qui n'ont pas, du coup, une charge narrative ou qui racontent pas vraiment un récit. Et là, c'est la première fois où, justement, il y a les voix racontent sur la personne, mais les voix racontent aussi une histoire. Et donc, la voix, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui permet de dans ce cas-là de décrire des choses qu'on ne voit pas et qu'on n'est pas sûr d'entendre, en effet. En effet, sur la nature et l'humain, ben moi j'aime justement bien, j'étais là-bas un peu comme apprenti audio-naturaliste, donc dans l'idée de d'enregistrer les sons de la nature, mais sans avoir une grande connaissance en fait des animaux, de l'ornithologie ou de la nature. En fait, j'ai découvert tout ça avec eux, et puis j'ai beaucoup aimé apprendre les noms que eux donnent à ces animaux, que eux donnent à ces oiseaux, et qui ont d'ailleurs tous une très grande connaissance. Mais j'aime bien se dire que dans cette nature, j'inclus aussi l'humain, et que cette frontière justement entre l'humain et la nature, c'est pas une frontière, mais c'est plutôt un tout. Et surtout dans un endroit comme ça où les gens vivent vraiment en pleine nature, ils en font partie, c'est eux qui la protègent aussi. Et donc le surnaturel aussi ferait partie de cette nature. Et donc ce surnaturel qui a aussi sa raison d'être, qui n'est pas uniquement quelque chose de complètement... farfelu, c'est je trouve que cette légende, et comme beaucoup de légendes ou beaucoup d'histoires, elles ont une raison d'être, et une raison principale, c'est de protéger justement la nature et d'être garante de cet équilibre entre humain et nature, et que les humains n'abusent pas trop de la nature. Et donc cette créature là pour moi c'est un peu cette figure, c'est quelqu'un qui protège la nature et qui fait qu'on peut se servir de la nature, on peut y planter des choses, on peut y chasser, mais toujours en étant dans une responsabilité, en faisant ça de manière raisonnable.
Tout à l'heure, à la fin de la projection, le film a un peu été présenté comme un piège où on nous vend un film où on voit des choses et finalement on en écoute. Quelle est la réception de ce film qui a été présenté à un certain nombre d'endroits en Europe et puis aussi à l'endroit même où il a été tourné?
Alors c'est vrai que les réactions sont très différentes, et puis selon les contextes, en fait, le public aussi est très différent. C'est vrai que la semaine dernière, il est rentré dans un festival est plutôt expérimental, et donc du coup il devient très classique parfois, mais souvent il a un peu c'est-à-dire qu'il est un peu entre deux eaux. C'est pas vraiment une pièce sonore parce qu'il y a des images, pas vraiment un film parce qu'il y a pas beaucoup d'images, il y en a pas assez, et c'est pas non plus une pièce de radio parce que sinon on peut pas la comprendre, mais j'aime assez bien qu'il soit ça m'intéresse justement les frontières, les choses qui sont pas tout à fait claires, et d'être entre deux eaux. Et jusqu'à maintenant, elle a plutôt été bien reçue dans différentes... Il a été montré comme ça, mais il a aussi été montré comme installation. En ce moment, il est montré comme installation dans un musée. Et à Berlin aussi, il a été montré pendant un mois aussi comme installation. Donc c'est-à-dire dans un endroit où on peut rentrer et être seul ou être accompagné. Donc le film est là pendant toute la journée. Donc il y a plusieurs formes, plusieurs réactions. Mais c'est vrai que oui, c'est un peu un piège dans ce sens-là où... Je pense que si je disais venez écouter une pièce sonore, c'est plus compliqué de ramener le public, alors que si on leur dit venez voir un film, ils viennent, et puis finalement ils sont piégés pour entendre. J'aime assez bien cette idée justement de proposer une écoute, proposer une écoute via la salle de cinéma. Je crois que c'est quelque chose de chouette. Et par rapport au retour, c'est vraiment très différent selon les endroits, mais par exemple dans la petite ville qui est donc à 1h30 plus ou moins du village où je l'ai filmé, il y a eu plein de questions avec des gens des jeunes qui faisaient plutôt des courts-métrages de vampires dans la forêt avec les moyens du bord, quoi. Et ils étaient tout à fait sûrement piégés aussi d'une certaine manière, je pense qu'ils étaient plein de questions très intéressantes sur la manière de procéder, de comment j'étais arrivé à travailler le son, ou comment est-ce que j'avais choisi l'écran noir, quoi. Et en fait, c'est pas que j'ai choisi l'écran noir, j'ai choisi plutôt de mettre des images de temps en temps. Mais je pense que ça vient aussi de mon travail en général, et puis de la construction, c'est-à-dire que c'est vraiment une construction sonore sur laquelle je suis venu plaquer quelques images pour illustrer les sons, on va dire. Et en général, on a tendance plutôt à faire le contraire, c'est-à-dire à faire le montage image, et ensuite on met des sons pour illustrer les images. Donc c'était vraiment le chemin inverse.
Un film en tout cas bien reçu ici au Zola, et qu'on recommande donc à nos auditeurs ainsi que le reste de votre travail. Merci beaucoup Félix Blum.